les éco-ateliers. Des rencontres inspirantes avec les acteurs de la transition écologique et solidaire. Proposé par Audrey. Voici la partie 3 sur 4 du feuilleton de l'été. Nous sommes toujours avec Sébastien Blache à la ferme du Grand Laval à Montélier. Après nous avoir parlé de son parcours et de sa façon de travailler, il va maintenant aborder son sujet de prédilection. Comment a-t-il fait pour favoriser le retour du sauvage sur la ferme et pourquoi ? C'est parti !
Depuis toujours, on essaie de miser notre, on va dire, notre, je dirais pas notre survie, mais notre fonctionnement sur le retour du sauvage sur la ferme. Alors, retour du sauvage, c'est quoi ? Avant, nous, enfin moi, en tant que naturaliste et ornitho et écologue, on parlait de biodiversité, on parlait de... Alors, vous aviez des carpocaps, le ver de la pomme, ben, on va mettre des nicheurs à mésanges pour que les mésanges les mangent. Un problème, une solution. On ne va pas mettre de sureau, pas mettre de fusain, parce que le fusain, il a un puceron qui potentiellement peut aller sur vos arbres, donc attention. Donc là, vous vous arrachez la tête. En gros, vous pouvez faire venir deux trucs et puis c'est tout, vous arrêtez, parce que sinon, vous prenez trop de risques. Et en 2000, moi, la bascule, où vraiment je suis parti dans un autre monde, c'est quand il y a trois ans, on a pris de la neige au mois de novembre. 2019, gros coup de neige, et en fait, on pète tous les arbres. Et là, on se dit, ouais, c'est pas possible, il faut changer de braquet, il faut s'appuyer sur d'autres choses pour continuer, parce que, en fait, l'activité agricole, c'est vraiment, selon comment vous positionnez, mais vous pouvez devenir fou, en fait. Hein. C'est d'une violence incroyable, hein, avec ce que vous gérez, quoi. Vous êtes toujours dans des problèmes, quoi. Vous avez toujours un ravageur qui est en train de vous manger, donc soit vous avez votre atomiseur et puis tous les 15 jours vous envoyez quelque chose pour essayer de gérer tout votre truc. Donc vous êtes vraiment en guerre, quoi, en permanence, vous stressez de tout. Soit vous arrêtez tout, mais il faut quand même constater que vous avez tellement créé un déséquilibre en plantant vos arbres qui créent un écosystème homogène sur une grande surface que vous ne pouvez pas non plus. Vous avez toutes les chances de ne plus exister parce que tout va se faire bouffer. Et de là, en 2000, donc à ce moment-là, on avait déjà commencé, hein, mais ça a amplifié l'idée de se dire, moi j'ai discuté avec des collègues du muséum, j'aurais dit, écoutez, moi, sortez-moi les grandes règles de l'écologie qui font qu'un écosystème soit ce qu'il est, quoi. Qu'est-ce qui régente un écosystème? Ils m'ont pas vraiment répondu, mais m'ont apporté quand même de certains éléments. Et à un moment donné, du coup, on en revient aux bases, c'est-à-dire on prend un précis d'écologie, on revient à ce que les grands de ce monde, les Jacques Blondel et compagnie, ont décrit et expliqué. Qu'est-ce qui fait qu'un écosystème est riche et diversifié? Eh bien, c'est la diversité des habitats, c'est la connexion des habitats. Donc, si vous êtes un lézard, il faut pouvoir vous balader de partout. Il faut pas être dans un cul-de-sac, là sinon il y a un des lézards ici, et pas suffisamment, il n'y a pas de population de lézards, etc. Et en fait, c'est en se remettant à réfléchir en tant qu'écologue qu'on s'est dit à un moment donné, mais en fait, le sauvage c'est quoi? Enfin, la biodiversité c'est quoi? La biodiversité c'est l'ensemble des êtres vivants, que ce soit des animaux, des champignons, des bactéries, ce que vous voulez, qui vivent, avec lequel vous fonctionnez, quoi, qui s'appuient sur le système que vous en êtes à l'origine, parce que c'est vous qui avez décidé de mettre des arbres, planter des trucs, mais que vous ne maîtrisez pas. Or, tout l'acte de production agricole ne se fait que sur du fonctionnement sauvage. Les agriculteurs qui, dans la chimie, sont dans la maîtrise, ils sont dans la maîtrise de rien du tout, hein. Il rajoute ce niveau-là pour gérer un certain nombre de trucs. Mais tout n'est que sauvage. La pollinisation, c'est un phénomène, ça a 200 millions d'années. Les plantes, les plantes à fleurs, elles marchent par pollinisation avec des insectes. C'est aucun paysan l'a inventé. Quand il n'y a pas de pollinisateur, ça ne marche pas. Hein. Et donc, toute la pollinisation chaque année de tous les arbres fruitiers de la vallée du Rhône marche parce qu'il y a des insectes sauvages qui le font. Et c'est pas les abeilles domestiques qui le font. Elles le font très mal d'ailleurs, les abeilles domestiques. Il y a qu'une espèce par rapport à l'ensemble des pollinisateurs. Ce week-end, il y a un entomo, il disait 50 000 pollinisateurs en vallée du Rhône. Espèce sauvage. Les abeilles domestiques, elles peuvent se rhabiller, quoi. Elles posent d'ailleurs d'autres problèmes qui sont que l'apiculture qui est partie comme l'agriculture sur de la spécialisation, qui font que quand vous arrivez, vous posez un rucher pour faire une mielée de 200 ruches dans une ripisylve, les abeilles elles vont là où il y a de la bouffe à mort, et là vous avez comme des envahisseurs qui vous prennent toutes les fleurs et qui empêchent toutes les abeilles sauvages, puisqu'elles sont extrêmement présentes et agressives par leur comportement de butineuses performantes, quoi. Que vous réduisez la capacité de pollinisation de l'écosystème. Les abeilles domestiques, ça véhicule une image extrêmement positive. Or, il faut quand même reconnaître que c'est une activité qui est pas plus glorieuse que les Primochten en stabulation. Les mecs, aujourd'hui, enfin moi je le dis, j'ai plein de copains apiculteurs, mais je ne me prive pas de leur dire. Aujourd'hui, il y a un apiculteur ce qu'il fait. Eh ben, ils ont croisé les abeilles locales, l'abeille noire, avec toutes les abeilles du genre Apis mellifera. Donc là, en ce moment, leur gros délire, c'est d'aller chercher des abeilles qui sont fécondées au Brésil. À un moment donné, ils allaient chercher des trucs dans le Caucase, en Italie, en Ukraine, de partout. Ils trimballent tout le bordel, ils leur font machin. Les ruches, elles sont poussées à mort. Si vous balancez pas du sucre dans tous les sens, ça fonctionne pas. Vous les prenez là, vous allez les mettre sur une mielée de lavande. À la fin, vous mettez tout ça sur un camion, vous traversez, vous allez refaire une autre mielée. C'est du délire complet, l'apiculture, quoi. Et les mecs, ils disent, ouais, les abeilles, elles crèvent. Ouais, non, mais alors, les gars, il y a l'association des abeilles noires dans le Massif Central qui montre qu'il n'y a pas plus de mortalité dans le Massif Central avec de l'abeille noire que ce qu'il y avait à l'origine du travail qui se faisait sur les ruches en abeilles noires. Et que la question de brasser les abeilles, la responsabilité des apiculteurs par leur sélection est quand même grandement engagée, quoi. Donc tout ça pour dire quoi ? C'est que on s'appuie sur les dynamiques sauvages. Et s'appuyer sur les dynamiques sauvages, ça veut dire à un moment donné, eh ben, vous laissez rentrer tout ce que vous pouvez laisser rentrer. Et vous n'avez pas d'a priori sur ce qui rentre. Vous ne dites pas, ben, moi je ne suis pas du tout d'accord que la buse elle vient parce qu'elle va me bouffer mes poules, ou je veux pas que le loup vienne parce qu'il va me bouffer mes brebis. Mais par contre, je veux bien que le renard... non, pas le renard, pardon, je ne veux pas qu'il vienne non plus. Mais je veux bien que les papillons, ça c'est plutôt cool. Ah non, non, il y a des chenilles. Vous n'avez pas d'a priori. Et en fait, dans un écosystème, ben, ça n'existe pas dans un écosystème des espèces qui dominent, qui sont surabondantes et qui défoncent tout. Ça existe quand il y a par exemple des invasifs qui sont mis, qui déséquilibrent l'écosystème. Là, on part dans un point de déséquilibre. Mais dans un écosystème qui fonctionne à peu près, chaque espèce est régulée par sa relation, ce qu'on appelle prédateur-proie. Il y a de la bouffe, je suis là. Il n'y a pas de bouffe, je diminue. Il n'y a aucune espèce qui va au-dessus de... Le pêcheur, avec Jean-Louis, on s'est tellement fréquenté dans ces trucs, on s'arrachait les cheveux avec les pêcheurs et les chasseurs qui pétaient des câbles avec les cormorans et les hérons. Il faut tuer tous ces putains de hérons qui sont dans les rivières. Hein ? Le castor, mais là c'était, on pouvait même plus les soigner à ce stade-là, mais le héron déjà. Les hérons, donc
et le cormoran.
Avant 70, il n'y avait pas de hérons, parce que les mecs ils butaient les hérons en fait. Hein. Donc 76, protection des oiseaux. Les colonies de hérons se refont, et on voit des hérons bord des rivières. Donc les mecs déjà, il y a toute une génération qui n'a pas vu de hérons de sa vie. D'un seul coup, ils se remettent à voir des hérons, donc ça perturbe beaucoup ça. Et puis vous les voyez manger des poissons. Normal, il est piscivore, hein. Donc il ne mange pas de l'herbe et des carottes, quoi. Donc vous les voyez manger des poissons, et les mecs disent, les rivières, il n'y a plus de poissons. Ouais, les hérons, il faut réduire les cormorans. Hein. Sauf que toutes les études qui sont menées montrent que les populations de piscivores, elles pêchent dans les rivières où il y a du poisson. S'il n'y a pas de poissons, les effectifs sont faibles de piscivores. S'il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de piscivores. Mais il n'y a aucune étude, hormis dans des lacs fermés, qui montre, par exemple, que le cormoran a un impact sur la dynamique des peut faire baisser les dynamiques de population. Aucune. Le cormoran, il ne mange que les espèces les plus communes, parce que lui, il a un bilan énergétique. En plus, il a pas de chance, l'oiseau, il n'est pas étanche. Donc le cormoran, quand il plonge, il se mouille et il est obligé de sécher, quoi. Donc si lui, il est vicieux au point de vouloir manger que du brochet, et d'y passer la demi-journée pour attraper les brochets, je peux vous dire que le temps de séchage derrière, en rapport avec ce qu'il va breveter, ça passe pas, hein. Il s'auto-détruit. Donc le cormoran, dans le Rhône, par exemple, on l'a étudié, ça a été étudié, il mange l'espèce qui domine. Non, c'est le chevesne dans le Rhône. C'est chevesne et gardon. Ouais, il mange du chevesne et gardon. Alors, une fois que vous dites ça aux pêcheurs du Rhône, chevesne, gardon, gros souci, qu'est-ce qui se passe, il y en a... Alors, on s'en fout des chevesnes et gardons. Bon, alors, vous en avez rien à foutre des cormorans. Hein. Mais non. Quand vous avez les cormorans qui arrivent dans la Bourne, ils sont là pourquoi? Parce que la Bourne, c'est la plus grosse, c'est la rivière la plus productive en termes de truites. Voilà. Donc tout ça pour dire que dans la nature, ça se régule. Tout le temps. Donc sur une ferme, où on a un point de déséquilibre parce qu'on crée ce milieu qui est complètement artificiel, ben si on recrée des écosystèmes au sein de la ferme et qu'on laisse venir le sauvage, peut-être, je dis bien peut-être, que ça va nous aider à travailler différemment. Et nous, c'est ce qu'on est en train de vouloir faire depuis le début. Alors ça a quand même abouti à un truc assez intéressant, c'est que assez rapidement, par exemple dans le verger, on a décidé de ne faire que les choses qui étaient indispensables, sinon la plante disparaissait ou la production disparaissait, et pour lequel on avait une efficacité. Par exemple, le pêcher. Le pêcher, il y a une multitude de ravageurs sur le pêcher, en insectes, en champignons. Il y en a un plein bouquin. Hein. Ça, en plus, pour le coup, c'était mon travail, ça, donc je vois bien tout ce qu'il y a à faire. Il y en a un qui est vraiment problématique, c'est la cloque. Parce que la cloque du pêcher, si ce n'est pas du tout géré, si vous arrivez à cette saison où tout votre pêcher est recouvert, vous en avez sûrement vu dans des jardins, des pêchers qui sont tout comme ça, voilà, c'est mort, quoi. C'est mort pour la production et c'est potentiellement mort pour votre arbre. On sait le gérer très bien, très facilement, à condition d'être là au bon moment. C'est-à-dire au moment de l'agrossissement des bourgeons, donc on ne part pas au ski en février, nous, c'est pas possible. Au moment du grossissement des bourgeons, il faut positionner du cuivre. Mais si on positionne du cuivre, nous on le fait à la lance du coup, pour ne pas en foutre de partout, nous on se retrouve à 300 grammes hectare de cuivre. Ouais, donc c'est pas 300 grammes hectare, c'est vraiment que dalle quoi. La limitation c'est 3 kg hectare, 600 vitis. On a 300 grammes. Et si avant chaque pluie significative, dans cette période de croissance des bourgeons, on a positionné un cuivre pour faire que les spores de cloque qui sont véhiculés par la goutte, ils tombent dans le bourgeon où il y a du cuivre, ils ne germent pas. Donc on se rate, hein, il y a des trucs qui... Mais vous allez voir l'état sanitaire des pêchers, il est totalement incompatible avec une bonne production. Et tout le reste, la tordeuse orientale, la petite tordeuse, l'oïdium, le puceron vert, on s'est dit, ben voilà, maintenant on a mis des nichoirs, on a commencé à regarder, c'est tout rempli, il y a des chauves-souris de partout, il y a des machins. On a plus de 200 nichoirs à mésanges dans le verger. Donc on a de partout, vous allez tourner les yeux, vous allez tout le voir, il y en a de l'autre côté sur le truc. C'est pratiquement impossible de ne pas voir un nichoir. Ça, un nichoir, ça sert à quoi? Ça sert à mimer la forêt, c'est tout. Hein. Vous faites un verger, c'est une forêt. Donc c'est un écosystème forestier, sauf qu'une forêt, pour qu'elle accueille des cavernicoles, il faut qu'elle ait un peu plus de diamètre que ça. Et du coup, on va attendre un peu longtemps là. Donc si vous voulez mimer la forêt, vous mettez des nichoirs en attendant, et vous plantez d'autres arbres. Donc j'ai planté des arbres fruitiers, mais aussi d'autres arbres, des frênes, des hêtres, des étilleuls, des arbres d'ici, quoi, qu'on va laisser pousser. Donc après, c'est mes enfants hein, qui prendront la suite s'ils veulent, ou s'ils nous arracheront tout, et puis ils nous feront du maïs. Du maïs, hein, ils verront ce qu'ils font, mais j'espère ne pas être là pour voir ça. Et en attendant, on met des nichoirs. Si vous avez même des petits arbres et vous mettez des nichoirs, les oiseaux, alors pas ceux des grands arbres et des grands fûts, le pic noir par exemple, tout ça, ils ne viennent pas encore. Mais par contre, les espèces qui s'adoptent à la forêt jeune, qui ne sont pas des espèces rares, des espèces très communes comme les mésanges, les tourneaux... Vous leur mettez des nichoirs, hop, toute l'écologie de la maison arrive. Et vous avez. Et on est parti d'une idée aussi, qui est une autre idée qui a qui me semble assez importante, c'est de dire tant qu'à mettre un écosystème en place, mettons-le de façon significative. Pour faire que ce ne soit pas un facteur limitant, que ce ne soit pas du saupoudrage. Donc on ne va pas mettre 3-4 nichoirs en se disant bah, c'est sympa qu'il y ait 2-3 mésanges. Non, on en fout de partout. On sature. On se dit on en met au-delà de l'entendement pour que voilà, les mésanges, elles tournent la tête, il y a une cavité. Quoi. Une fourmilière, si elle a envie de rentrer dedans, c'est possible. Il n'y a pas de concurrence et tout est possible. Et ça, on le fait, on l'a fait. Donc pour, on essaie de le faire pour tous les trucs qui nous semblent intéressants à notre contrainte et à notre écosystème. C'est aussi ça qu'il faut se dire. C'est que chaque ferme a son propre truc. Donc, on a imaginé ça sur les nichoirs, à mésange, à chauve-souris. Maintenant, on imagine ça sur les mares. Comme je vous disais, on a donc cette fameuse... Regardez les Milan noirs, là. Tu sais ce qu'on a vu ce week-end? C'est bien la première fois que je le vois ici. On a vu un aigle royal qui est venu nous voir.
Ah bon?
Ouais. Un aigle royal, mais attends, il est passé... Ah non, il n'était pas là-haut. Hein. Il est passé à ras du sol. À 20 mètres sol, il est passé au-dessus de la ferme. Donc ça, c'était vraiment... C'est des Milans derrière aussi.
Il y a un goéland.
Ah, c'est des goélands.
Goéland, le café. C'est des Milans.
C'est des Milans. Et donc, on fait ça aussi avec les mares. Donc, je vous ai dit, il y a ce ruisseau et puis il y a un autre ruisseau derrière. Donc là, on est sur une trame. On est sur une ripisylve, un écosystème qui est d'eau courante, qui si on mime la nature, une rivière théorique, là on parlait du castor, c'est vous avez un lit mineur, donc la rivière qui coule, puis la rivière normalement elle a son lit majeur, c'est quand il y a des crues là, elle déborde et elle est capable d'aller loin, et elle crée en faisant ça tout un tas d'écosystèmes, donc des lones, sur le Rhône il y avait toutes ces lones, des lones qui sont ouvertes, des lones qui sont fermées, qui se déconnectent du Rhône pendant longtemps, et qui se transforment en mares géantes, des lones qui ne gardent pas l'eau suffisamment longtemps, donc qui vont rester pendant 3 mois en eau, et puis après, ça va s'assécher. C'est ce qu'on appelle des mares temporaires. Et tout ça, il y a des communautés animales spécifiques qui, depuis des millions d'années, évoluent avec ça. Et ça, du coup, on s'est dit, ben, comme on a 2 rivières, il faut qu'on le mime. Et tant qu'elle mimait, eh ben, faisons-le comme il faut. Donc on a, au bord de ce ruisseau, avec l'agglo, là, j'ai embarqué là-dedans parce que j'avais pas envie de le faire seul, j'en aurais pu d'une certaine manière. Et on s'est dit quand même, l'agglo qui bosse sur les milieux aquatiques, ils galèrent pour trouver des paysans qui ont envie de faire une mare chez eux ou des trucs. Si on leur dit venez faire des mares et on monte un projet ensemble, ils vont peut-être réagir. Ils étaient enchantés, ils ont répondu à un appel d'offres et du coup, ils ont participé, ils ont répondu à un truc de l'agence. Ils font le marathon de la biodiversité sur 42 km là. Et donc, sur 42 km, ils vont faire 42 mares, dont 17 sur la ferme. Donc là, sur la ferme, il va y avoir 17 mares. Et l'idée, c'est de faire que cet écosystème, il soit vraiment, il génère, il produise quelque chose qui change.
Ils vont être connectés, les mares?
Ah bah, 17, ouais, sont pratiquement toutes les unes à côté des autres. Il y en a, c'est sur les 17 hectares, là.
D'accord.
Donc, il y en a vraiment partout.
Ah oui,
et les bandes enherbées, c'est pareil. Donc, la bande enherbée, vous mimez un étage... de la forêt, en fait, ce pied-là, tout est interconnecté de bandes enherbées, etc. Donc, en faisant ça, ça nous a mis dans cet état d'esprit de finalement tout lâcher, et à part le minimum. Et en arbo, ben, on fait quasi plus rien. Donc, on fait sur la pomme, on gère le carpocaps, parce que pour l'instant, on est trop petit pour faire de la confusion sexuelle. On sature en phéromones pour éviter... on ne peut pas, ça ne marche pas. Donc on fait de la carpovirusine, c'est un virus sélectif. C'est le seul truc qu'on fait en pommier. Tout le reste, on a tout lâché depuis longtemps. Hein. Poirier, c'est la même chose, c'est la même parcelle. Et après, comme ça, pour les autres espèces, bah, c'est pareil, c'est rien. Prunier, on fait de l'huile pour limiter les pucerons. Et puis voilà, vous avez vu l'état des pruniers cette année, non, je sais pas. Ils sont tout recroquevillés. Ça fait 4-5 ans, c'est le carnage. Donc nous, on y avait droit aussi. Et donc là, ça se rééquilibre. Vous allez voir, les pruniers, ils s'en sortent pas si mal que ça. Quoi. Et donc, du coup, en ayant des oiseaux dans les nichoirs, des chauves-souris, des mares et des machins, à un moment donné, on se dit, on franchit le cap, on arrête. Et puis, adviendra ce qu'il advienne. Bon, on a confiance, quoi. Sinon, on ne peut pas le tester, quoi. Et finalement, ben moi ça fait 10 ans, hein, le verger, on fait là sur les 2 hectares, on fait quasi entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires de vente de fruits. Donc ramener à l'hectare, c'est quasi la même chose que les mecs ils font sur des vergers classiques. Sachant que pourquoi c'est aussi élevé, c'est parce que on a des rendements qui sont un peu plus faibles. Mais comment on les vend en direct? Bah, du coup, la marge, elle est pour nous, quoi. Quand vous vendez de l'abricot, quand vous vendez de l'abricot à 3,50 du kilo, 4,50 du kilo,
c'est pas 70 centimes.
C'est pas 70 ans. Vous n'en avez pas besoin de 50 tonnes, hein, je vous le dis. Hein.
Mais par exemple, les sols, vous en avez enfin peu parlé.
Ouais.
Mais vous les, je sais pas, il y a des gens qui travaillent en biodynamie.
Alors moi, je fais
tout part du sol et de l'enrichissement du sol.
Ouais, c'est vrai.
Vous vous avez pris plutôt.
Non, le sol, on y travaille dessus. Oui. De façon, là, en fait, là, quand on est en polyculture élevage en rotation comme on fait, le sol, les sols, ils sont en permanent. Alors le fumier, c'est notre fumier.
Oui, c'est ça.
On restitue
ça,
notre fumier de nos brebis. Voilà, on restitue notre fumier. Si on n'a pas besoin, la paille, de la passer aux brebis parce qu'on a suffisamment, on la laisse sur place. On fait passer les brebis sur pratiquement tout ce qu'on peut faire passer. Par exemple, une céréale, une fois qu'on a ça, on a moissonné, on laisse les andins. Si j'ai pas besoin de la paille, je parque, je mets les brebis dedans.
Ouais.
Et je fais manger les brebis. En fait, elles bouffent la paille. Hein. Et sur un troupeau qui a pas de besoin, l'été, tout va bien, quoi. Et du coup, votre sol, vous fonctionnez comme ça. On a fait dans le verger. Donc dans le verger, il y a les brebis qui passent et des poules qui passent. Et là, on a fait un protocole vers de terre. Et il y a des références en termes de volume de vers de terre, espèces de vers de terre, etc. Et là, on a reçu les résultats. Donc dans la partie pêche, où on a fait passer les poules l'année dernière, et où donc c'est un peu bouleversé quand même. Eh ben, on est à 850 kg de vers de terre à l'hectare. Et ce qui fait que c'est très haut, quoi. C'est très haut. Donc les sols, ils fonctionnent. On a fait des analyses de terre de référence, qu'on refait là maintenant. Mais le sol, nous, on est dans l'idée que dans notre système en polyculture élevage, le labour, en fait, sous-entendu, le labour, nous, on continue à l'intégrer. Parce que quand vous faites de l'agriculture biologique, la question des cultures de printemps, et vu ce qu'on fait en culture, on fait donc du haricot, du pois chiche, de la lentille, toutes ces cultures-là, des légumineuses, j'ai jamais vu personne faire du semi-direct de haricot dans du gazon, quoi. Hein? Ça, on sait faire du tournesol dans du gazon, on sait faire 4 trucs, quoi. Mais l'essentiel du sol vivant se fait en chimie, pas en bio. Il faut quand même le dire, hein. Enfin, je veux dire, l'essentiel du mouvement de l'arrêt du labour, ils ont remplacé la charrue par le Roundup. Donc moi, je trouve ça globalement vraiment bien nul, quoi. Parce qu'en plus, ce qui est défendu, c'est que le sol, du coup, il est vivant, il y a plus de vers de terre et tout, c'est faux. Là, il y a Marc-André Sellos, qui est un chercheur du muséum sur le sol, où ils se mettent à investir cette question-là. Et en fait, il montre que non, le Roundup, ça défonce les larves de vers de terre, quoi. C'est pas bon. Ouais, ça tue même, ça tue. On dit les vers de terre, pas du tout. Donc aujourd'hui, le sol vivant en grande culture, c'est essentiellement une affaire de conventionnels qui font le même protocole, c'est-à-dire ils travaillent en laissant tout le temps de la matière vivante sur le sol, mais à un moment donné, ils la détruisent, soit par des systèmes mécaniques de rouleaux qui cassent. Et après, bah, dès que ça repousse, parce que automatiquement ça repousse, il faut pas être naïf. Un sol, si vous ne le travaillez pas, il part en forêt. Tous les mecs qui sont en culture sans labour, que je connais, moi je suis voisin d'un mec en culture, c'est une forêt qui n'attend que ça. Sa parcelle, alors, au bout de temps, tu vois, c'est des trucs, c'est principalement des cornouillers, lui, il a des cornouillers, des peupliers blancs, des choses qui drageonnent. Mais il y en a plein de champs, et c'est le Roundup chaque année qui les tient à carreau. Mais du coup, le sol se transforme petit à petit, parce que les arbres, chaque année, vous accueillez des tonnes, et des, enfin pas des tonnes, mais des, des centaines de kilos, probablement, ou des dizaines de kilos de semences d'arbres qui tombent dans vos sols et qui attendent que ça. Moi, une parcelle labourée pendant 2 ans, je la laisse, il y a des chênes qui sortent de partout et des noyers qui sortent de partout, quoi. Et donc, si vous vous balancez un coup de Roundup dessus, bah, les arbres, il y a des arbres que vous les lattez juste, quoi, mais ils sont là, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu les champs quand vous arrivez là. Là, les mecs, les herbicides, ça diminue de plus en plus ce qu'ils peuvent utiliser. Ça devient un festival. Hein. Les champs, c'est des champs de chardon, quoi. Mais en bio, avec des rotations, on est 10 fois plus propre, quoi. Parce que les mecs, les chardons, ils n'arrivent plus à les avoir, quoi. Ils les jaunissent, c'est tout, mais tout le système en rhizome est dessous vivant, quoi. Donc la forêt, là, donc nous, on est sur ce compromis-là de se dire. On travaille pour pouvoir faire nos cultures de printemps, on laboure à ce moment-là. Et y a toujours une proportion de sol qui est couvert. Et les sols, quand on laboure, en principe, c'est 2 mois, 3 mois, et après, c'est recouvert par une culture. Quand on sort une culture en été, après, on ressème aussi sec. Parce que moi, mon but du jeu, c'est de faire pâturer les brebis sur la ferme. Donc, je sors aussi sec et je refais vite, je ressème vite quelque chose pour ensuite faire de nouveau une ressource alimentaire en fin d'été ou à l'automne ou dans l'hiver. Mmh. Les brebis, on arrive à les faire pâturer 365 jours dehors.
Et depuis combien de brebis ?
120, on en a.
Ah oui.
On a 120 avec les agneaux, on monte à 300, quoi. Mmh. Et du coup, le truc, c'est qu'on arrive à fonctionner de cette manière-là. Donc, si vous voulez faire des brebis sur votre ferme, en machin, eh ben, vous êtes obligé d'avoir de la matière à bouffer, quoi. Donc, si vous êtes en sol nu, ça ne marche pas, quoi. Mmh. On va au verger.
Et du coup, ça fertilise. Ouais, fertilise.
Et en plus, ça fertilise.
Comme les poules.
Ouais. On va au verger parce que le verger, c'est peut-être le mieux, non ?
Oui.
Et voilà, dans la dernière partie, nous partirons avec Sébastien pour faire une petite visite de sa ferme. Donc, à la semaine prochaine. C'était les Éco-Ateliers, proposés par Audrey.